Emmanuel Macron réunit un G5 Sahel à Pau et s'étonne que les États de la région soient si faibles et le sentiment anti-français si fort. Notre thème de la semaine, les pays du Sahel. Les pays du Sahel.
Ce qu'on appelle la situation d'indépendance et que je préfère, excusez-moi, appeler celle de la souveraineté internationale. L'indépendance est un terme qui signifie un désir, qui signifie une attitude, qui signifie une intention. Mais le monde étant ce qu'il est, si petit, si étroit, si interférent avec lui-même, que l'indépendance réelle, l'indépendance totale, n'appartient en vérité à personne.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Premier chapitre, la voie avec un E des indépendances. Le commencer par la voie avec un X du général de Gaulle, c'est prendre le risque de faire croire que le processus a été évolu et contrôlé. Du fait de son âge et de sa formation, le général ne pouvait être un fervent décolonisateur. Il a néanmoins pu passer pour tel, car il avait, avec l'Afrique, une relation particulière. Après avoir appuyé la France libre sur plusieurs colonies du continent qui lui avaient fourni visibilité, matière première et recrues, il avait réuni à Brazzaville, en janvier 1944, une conférence qui voulait imaginer l'avenir d'une Afrique profondément réformée. Les Français qui avaient participé à la libération de la France, les Français d'Afrique qui avaient participé à la libération de la France, ne commençaient-ils pas à attendre la leur ? Toutefois, après 45, ce n'est pas le général de Gaulle qui rendit possible les transitions nécessaires, mais bien la 4e République. Les structures changèrent avec la création de l'Union française. Certains sujets purent accéder au diplôme universitaire et même au mandat parlementaire. Au Palais Bourbon à Paris, l'Afrique occidentale française fut ainsi représentée par une dizaine de députés et élue par une centaine de milliers de sujets dits évolués qui accédaient ainsi à la citoyenneté. Le vocabulaire a changé aussi. L'école coloniale est devenue l'école de la France d'outre-mer. Les administrateurs qui en sortaient s'étaient préparés à un passage de relais et le ministère des colonies devenait ministère de l'outre-mer. L'un de ses titulaires qu'on va entendre recommandait, dans une conférence mondaine mais étonnante, un rythme prudent dans la transformation. Il prenait l'image d'un arbre fabuleux, le fromager. C'était François Mitterrand.
Je me souviens de la sentence de ce vieux roi dahoméen, Akaba. Lorsqu'il choisissait ses termes, le caméléon marche lentement, mais il atteint le sommet du fromager. Vous savez que le roi, lors de son avènement, choisissait une sentence de son gré qui devait signifier l'ambition de son règne. Et pendant longtemps, l'ambition de l'Afrique, si elle en avait une, pouvait paraître celle-ci. Mais précisément depuis 50 ans, à peine, et peut-être encore beaucoup moins, il semble que l'Afrique, entrée dans le siècle, veuille sans doute atteindre le sommet du fromager, mais vite, très vite, quelquefois trop vite. Jamais trop vite, non plus, pour peu que chacun de ceux qui vivent de son sol, que chacun de ceux qui habitent son sol, sache trouver les bases de l'accord qui permettra d'atteindre en toute sécurité le sommet du fromager.
1956, maintenant, François Mitterrand ne s'occupe plus de l'outre-mer, mais de l'Algérie, les gardes des Sceaux du gouvernement Guimolet. Et justement, dans ce gouvernement, un député africain devenu ministre, Houphouët Boigny, et Gaston Defferre, le titulaire du portefeuille de l'outre-mer, cherchent à ne pas se laisser prendre au piège d'autres guerres de libération qui pourraient éclater dans l'Afrique subsaharienne comme en Algérie. Gaston Defferre fait voter une loi cadre. En 1956, c'est un moment décisif.
Le gouvernement, conscient de la nécessité de ne pas se laisser devancer et dominer par les événements, a soumis à l'approbation de la Chambre des députés et du Sénat un projet de loi cadre tendant à faire participer étroitement les originaires des pays d'outre-mer à la gestion de leurs propres affaires. En premier lieu, le suffrage universel sera instauré. Lors des prochaines consultations électorales, le paysan noir pourra, au même titre que le diplômé, exprimer son opinion. Les assemblées créées depuis 10 ans dans les territoires d'outre-mer verront par ailleurs leurs compétences et leurs pouvoirs accrus. La fonction publique sera réorganisée afin que les Africains dotés d'un certain niveau d'instruction puissent trouver chez eux les emplois correspondants à leurs connaissances. Les peuples d'outre-mer sont prêts à partager notre destin. Ils aspirent à participer aux décisions qui l'engagent. Comment ne pas les comprendre ?
Alors la loi 4 de 56 n'a pas pour horizon les indépendances, mais la création de statuts d'autonomie copilotés par la France et les leaders africains qui émergent dans la vie syndicale déjà ancienne et dans la vie politique naissante. Vont pouvoir naître, on l'a entendu, élus au suffrage universel des assemblées dans les différents territoires avec de premiers conseils de gouvernement. On voit que la 4e République ne mérite pas toujours la mauvaise réputation qui l'entoure. Il reste que le régime tombe en mai 58 sur la question algérienne. Pendant quelques mois, il se survit formellement. Le général de Gaulle est d'abord seulement président du Conseil, le président de la République, René Coty, faisant tapisserie à l'Élysée. À Matignon, c'est la surchauffe. Le grand œuvre, c'est la préparation d'une constitution qui prévoit la création d'une communauté, on l'a oublié, une communauté de 100 millions d'habitants qui doit intégrer dans un même ensemble, fédéral, confédéral, on ne sait pas très bien, les Français et les Africains qui voudront bien dire oui dans le cadre d'un référendum commun. Référendum qui aura lieu à la fois en métropole et en Afrique noire, il faut y insister. Michel Debré, le père de cette constitution.
Par les actes de transfert que nous venons de signer, désormais, Centrafrique, la République du Congo, la République du Tchad seront des États indépendants. Sans doute, du point de vue essentiel, vous l'étiez déjà. Vous avez souhaité acquérir cette souveraineté totale. Et du même cœur que nous avions ensemble fait accéder les anciens territoires d'outre-mer à la personnalité et à l'autonomie, du même cœur, nous vous accompagnons sur la voie de la souveraineté et d'indépendance totale. Malgré la personnalité affirmée de vos États, vous souhaitez conserver entre vous des liens amicaux et en même temps des liens politiques. J'ajoute que dans ces liens amicaux et politiques qui vous unissent, vous nous accueillez et nous sommes désireux d'être présents.
Alors la communauté, faut pas brûler les étapes, on n'est pas encore à l'indépendance, c'est une collaboration pratique entre Français et Africains pour le bien commun. En clair, la France ne va plus se mêler de la politique intérieure quotidienne, mais fixer la politique monétaire, la politique des matières premières, c'est ce qu'on appelle la complémentarité économique de la France et de l'Afrique. Et en matière de défense et d'affaires étrangères, elle entend que la communauté marche du même pas qu'elle. Et ce, à un moment où la guerre d'Algérie suscite des critiques sur tous les continents et fournit des arguments anti-français aux leaders du tiers-monde. Mais voilà, le général de Gaulle le dit bien, il faut choisir son camp.
Quand donc un pays comme le vôtre va accéder à la responsabilité internationale dont je parlais, le monde entier regarde du quel côté il va se diriger librement. Va-t-il choisir le camp de la liberté ? Va-t-il choisir l'autre ? Veuillez observer d'ailleurs que je ne crois pas que ce soit toujours les mêmes qui sont dans le camp de la liberté et toujours les mêmes qui soient dans l'autre. Il peut arriver qu'on change, ou bien tout à coup, ou bien peu à peu de camp. Et c'est la raison pour laquelle nous ne renonçons à personne.
Bref, pour le général, si l'Afrique peut aider la France à affirmer son indépendance et à lui maintenir un statut de puissance qu'elle n'aurait plus sans elle, la France est prête à lui en dire sa reconnaissance et à l'aider. Dire oui au référendum qui est fixé à septembre 1958, c'est moins signifier la fin de l'Afrique française que signifier une nouvelle ambition nationale française.
Dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, c'est vraiment très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui que non. Oh, dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, vraiment c'est très bon.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La voie des indépendances en Afrique, on n'en est pas encore à l'indépendance, mais au référendum. Nous sommes à l'été 1958. Pendant la période entre mai et décembre 58, le général de Gaulle a effectué 4 voyages en Algérie, mais il va faire une tournée pré-référendaire en Afrique noire au mois d'août, tablant d'abord sur ses rencontres avec les peuples avant Dakar, où il recevra d'ailleurs un appel, un accueil houleux de la foule. Il passe par un pays, la Guinée, ou le grand Manitou d'Afrique de l'Ouest, où Fouad Boigny pariait sur le oui. Mais c'était sans compter sur le jeune leader local, un syndicaliste, Sékou Touré, mécontent d'avoir été écarté des comités préparatoires à la Constitution et qui veut faire entendre la voix de ceux qui attendent l'indépendance et non pas l'interdépendance. Le témoignage de l'un de ses adjoints, Alpha Abdoulaye Diallo, dans une série de la communauté des radios de langue française, Boulevard des Indépendances, à laquelle nous empruntons beaucoup aujourd'hui.
L'étape de Conakry n'était pas prévue. C'est à la dernière minute qu'il a été décidé qu'il viendrait à Conakry. Et à ce moment-là, Sékou avait préparé son discours. Il l'a remis au gouverneur Moberna, qui était ici à l'époque, et au gouverneur général, ils ont eu le discours avant qu'ils ne le prononcent. Et ils ne l'ont pas lu, parce que tout le monde était sûr que la Guinée allait voter oui, puisque le président Sékou Touré faisait partie du RDA. Et le RDA, avec le président Félix Houphouët-Boigny, avait décidé de voter oui. Et à un moment donné, quand on a dit au président Houphouët-Boigny que la Guinée allait voter non, il dit non, Sékou ne va pas voter non, c'est non, 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 non. Et c'est ainsi que Sékou a prononcé son discours.
Nous sommes le 25 août 58. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain, c'est un parti extra-territorial à dimension régionale. Mais là, on est à Conakry, en Guinée. Avant que Sékou Touré ne parle, il avait fait acclamer follement le général de Gaulle par la foule de ses sympathisants. Et c'est seulement ensuite, dans l'enceinte de l'Assemblée territoriale, contrôlée par les cadres de son parti, qu'il entendait faire applaudir son propre discours prononcé sur le ton du tribun dans le style « Nous préférons la liberté dans la pauvreté plutôt que la richesse dans l'esclavage ».
Et ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Le projet de constitution ne doit pas s'enfermer dans la logique du régime colonial qui a fait juridiquement de nous des citoyens français et de nos territoires partie intégrante de la République française, une et indivisible. Nous sommes africains. Et le territoire ne saurait être une partie de la France. Nous serons citoyens de ces États africains, membres de la communauté franco-africaine.
Alors au jeune Africain, Sékou Touré, véhément, péremptoire, répond « Le vieil homme blanc, recrue d'épreuves, mais si étonné tout de même par la difficulté de cette journée qu'il aurait oublié son képi sur la table en partant.
La question entre nous, Africains et métropolitains, elle est uniquement de savoir si nous voulons, les uns et les autres, pratiquer ensemble, pour une durée que je ne détermine pas, une communauté. Je dis ici, plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre le 28 septembre, en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra.
Bah, le général de Gaulle laisse entendre que le non, c'est pas vraiment l'indépendance, c'est la sécession de la Guinée par rapport à la communauté qu'elle ne voudrait pas joindre. Alors, il fait son deuil de la Guinée, semble-t-il. Entre Conakry et Dakar, l'étape qui suit à Dakar a été perturbée, elle aussi, cette fois par des porteurs de pancartes qui ont exaspéré le général, mais Senghor, le leader sénégalais, prudemment, n'était pas là afin de ne pas insulter l'avenir. Nulle part ailleurs qu'en Guinée, enfin peut-être au Niger, les leaders africains ne donnèrent la consigne de voter non au référendum qui se tint donc, comme prévu, le 28 septembre 1958. La proportion des oui tutoya les 95-100%, sauf au Niger, où elle fut officiellement de 78%, et en Guinée, ce fut non à plus de 95%. Téliguel Diallo, c'est le fils de l'adjoint de Sékou Touré qu'on entendait il y a un instant.
Le parti de Sékou Touré était devenu un parti hégémonique. Les autres s'étaient dissous. Ils ne sont pas ralliés. Ils se sont dissous et ils sont entrés individuellement dans le parti de Sékou Touré. Mais bon, ils avaient leur personnalité. C'était des grands leaders quand même. C'était des nationalistes. Ils ont dit, bon, maintenant nous rallions le parti de Sékou Touré, le parti démocratique de Guinée, et nous allons mobiliser nos gens pour que tous votent non au référendum, donc oui pour l'indépendance. Il y a eu un processus qui s'est engagé, dont Sékou Touré était le porteur côté guinéen, dont De Gaulle était le porteur côté français, et ce processus aboutissait nécessairement, inéluctablement, à l'indépendance de la Guinée. Il faut remarquer que dans beaucoup de pays, l'assise syndicale n'avait pas été aussi forte qu'en Guinée. Senghor, c'est un intellectuel, un universitaire. Oufuette, bien que lié au syndicat, mais c'était quand même un planteur. C'est quelqu'un qui appartenait aux couches supérieures de la Côte d'Ivoire. Sékou Touré était un syndicaliste au sens classe ouvrière du terme. Et toute son action, des premières étapes du parti qu'il avait, la section RDA, c'est-à-dire le PDG, la section guinéenne de RDA, avait consisté à mobiliser les classes inférieures, c'est-à-dire d'abord les ouvriers, ensuite les ouvriers et les paysans, et je pèse mes mots, c'est des choses qui veulent dire des réalités sociologiques, autour d'idéaux de progrès économique, de progrès social. Donc lorsque De Gaulle, coincé par l'histoire, a dû proposer l'indépendance aux territoires colonisés africains, les Guinéens étaient prêts, mais pas seulement les Guinéens. Je pense que de façon générale, les peuples africains voulaient aller à l'indépendance. La question n'était pas d'ordre philosophique ou de conscience, la question était d'ordre politique. C'est comment, avec quels outils et dans quel but politique il fallait aller à l'indépendance. C'était, est-ce qu'on allait le faire avec une guerre? De Gaulle a offert l'opportunité d'aller à l'indépendance en faisant l'économie d'une guerre de libération.
En tout cas, la Guinée, c'est le seul pays africain francophone pendant cette séquence précise à proclamer son indépendance si tôt, dès le 2 octobre 1958. Paris pense qu'elle s'est condamnée à l'indépendance et va le lui faire payer cher. De Gaulle coupe aussitôt les vivres. « Faites la preuve de votre capacité à être souverain », dit-il à Sékou Touré. À plus d'un moment, celui-ci tend la perche, il dit vouloir l'apaisement. Mais la France bloque, ou tente de bloquer, l'accès de la Guinée à l'ONU, où celle-ci, une fois admise, va voter la mise en accusation de Paris pour son comportement en Algérie et ses expériences atomiques au Sahara. Au bureau des affaires africaines près de l'Élysée, Jacques Foccart multiplie ce qu'on appelle pudiquement les opérations de déstabilisation de Sékou Touré. Celui-ci, qui avait pourtant cherché des appuis en Occident, à Londres, à Washington, à Bonn, finit par tomber dans les bras de Moscou, adoptant de plus en plus les méthodes du camp soviétique, arrestation, camp de concentration, exécution, CQFD.
Indépendance, tcha tcha, aux oubliés, au petit poisard, tcha tcha, tout va qui dit, au table ronde, tcha tcha, va gagner, oh, on y panda, tcha tcha, aux oubliés, indépendance, tcha tcha, aux oubliés, au petit poisard, tcha tcha, tout va qui dit, au table ronde, tcha tcha, va gagner, oh, on y panda, tcha tcha, aux oubliés, assoré.
Pendant ce temps, en 59-60, la communauté, que devient-elle? Pour reprendre l'expression de l'abbé Fulbert Yulou, qui était le premier président du Congo Brazza, c'était la mère et ses enfants, pour le confort et la sécurité de la mère. Mais les enfants pris un par un, est-ce qu'ils ne sont pas trop frêles? Beaucoup de leaders africains craignent la balkanisation. D'ailleurs, ils ont milité dans des syndicats et des partis dont l'ambition était souvent panafricaine. L'idée vient donc d'une association à quatre entre le Sénégal, le Dahomey, la Haute-Volta et ce qu'on appelait le Soudan français, le Mali d'aujourd'hui. Ouagadougou et Bamako auraient ainsi disposé d'une ouverture maritime. Sédiou Badiou Konyaté, un proche de Modibo Keïta qui est le leader du Soudan français.
Nous avons fait la fédération avec le Dahomey et la Haute-Volta.
Elle a vu, mais elle n'a pas tenu longtemps.
Ils ont fait défection. Ouais. Moi-même, on m'a envoyé en mission auprès des dirigeants voltaïques. Je suis resté une quinzaine de jours là-bas, mais au fouet était déchaîné. Il fallait que ça éclate. Il fallait de toutes les façons nous enlever et la Haute-Volta et le Dahomey. Il a réussi.
Pourquoi est-ce qu'il n'en voulait pas?
Parce que la France n'en voulait pas. Et Defer l'a dit dans un de ses écrits, il ne voulait pas. Ils ne voulaient pas. Morcelé, nous étions à la merci, à leur merci. Mais un État fort, c'était autre chose. Ils n'en voulaient pas.
Ça aurait déjà été, d'une certaine manière, un peu l'embryon de ces États-Unis d'Afrique.
Parfaitement. Et c'était notre intention. La volonté existait, faire quelque chose, mais nous avions toujours eu des pots de banane qui ont toujours réussi à nous mettre en échec, disons.
Et dire qu'aujourd'hui, la France regrette que les États de la région ne soient pas assez forts. Alors, exit l'hypothèse Haute-Volta et Dahomey, mais Dakar et Bamako semblent ne pas renoncer pour leur part. Mais là encore, la question de la guerre froide et des choix géopolitiques se pose. Senghor n'est pas d'accord avec Modibo Keïta, qui émet un peu les mêmes signaux que Sékou Touré et tente de faire un tour de valse avec ce qu'on appelle alors l'Est. C'est une des raisons du divorce du Soudan français d'avec le Sénégal, et le Mali en sera quitte pour célébrer, improviser son indépendance.
Le 22 septembre 1960, le divorce avec le Sénégal est consommé. En vitesse, il faut en tirer les conséquences.
Senghor avait déjà composé l'hymne de la fédération. Malheureusement, en août, la fédération a éclaté. Et nous sommes revenus. Nous n'avions rien. Il n'y avait pas de drapeau. Parce que le drapeau était fédéral. Il n'y avait pas d'hymne. L'hymne était fédéral. Il n'y avait même pas les décorations, les distinctions. Tout était fédéral. Et il a fallu tout refaire ici. Le président m'a appelé parce qu'il savait que j'écrivais. Il m'a demandé, c'était très urgent de faire un projet d'hymne tout de suite. J'ai fait un avant-projet, je lui ai apporté. Nous l'avons chanté tous les deux. Il m'a dit, c'est très bien. Parce qu'auparavant, un pianiste européen avait fait quelque chose. Il a dit non, on ne sent pas l'Afrique. Et ça ne sent pas le Mali, ça ne sent pas l'Afrique, ça ne sent... Non. Mais mon avant-projet, nous l'avons chanté tous les deux.
Et c'est devenu, pour l'Afrique et pour toi, Mali.
Voilà.
Voilà.
À ton appel, Mali. Oui, pour ta prospérité, fidèle à ton destin. C'est ça.
Il est 0h le 20 juin. Le Mali est indépendant.
C'était plus que un jour de joie, c'était le délire. Je m'étais battu pour l'indépendance. J'ai pavoisé la rue en face, les environs, la maison. J'étais fou, fou de joie. Parce que j'ai pu montrer à ma mère, voilà le jour où l'indépendance, le départ de ces Blancs qui nous ont colonisés là, voilà ce jour-là que nous vivons. Et c'était un peu pareil dans toutes nos familles. C'était une sorte d'espoir illimité. On pensait qu'avec l'indépendance, tout allait se faire. Plus ou moins longtemps, mais tout allait se produire. Voilà comment on a vécu ce jour-là, le jour de l'indépendance.
Ces témoignages sont extraits, je vous l'ai dit, de Boulevard des Indépendances, une production de la communauté des radios de langue française. Et le Mali indépendant prouve peut-être que le rêve de la communauté, tel que l'imaginait le général de Gaulle, a vécu. Bientôt, il ne la définit plus comme une fin en soi, mais seulement comme une étape. Il va falloir évoluer vers des indépendances raisonnables, en se disant qu'en règle générale, le sang n'a pas été versé dans des guerres de libération. Le général de Gaulle ne retournera plus jamais en Afrique noire, même si avec l'aide de son homme Lige, Jacques Foccart, il prendra toujours le plus grand soin du traitement personnel des chefs d'État africains. Et à partir de 1961 et de l'extinction de la communauté qui devient officielle à cette date, d'innombrables accords et conventions remplaceront les obligations réciproques qu'elle avait tenté de mettre en place. S'ouvre donc le temps de la coopération, sur lequel il y aura beaucoup à dire. Alors encore 3 émissions jusqu'à jeudi sur les pays du Sahel. Celle-ci a été préparée par Frédéric Martin, Juliette Gou, Audrey Ripouille.